France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je vous invite à Marseille en compagnie de Maurice Xibéras, directeur de l'Opéra de Marseille et du théâtre de l'Odéon, deux salles qui font la part belle à l'opéra français, à l'opéra comique, à l'opérette, bref, à tout ce que nous aimons. En fin d'émission, j'évoquerai la disparition de Louise Étienne et les succès des Sœurs Étienne au lendemain de la Libération, puis ce sera la chronique de Patrick Campistron. Mais avant toute chose, fêtons le printemps qui vient d'arriver, très discrètement, certes, alors il mérite bien quelques chansons.
Un matin vous ouvrez la fenêtre, l'air vous semble soudain plus léger. C'est comme un frisson qui vous pénètre, il y a quelque chose de changé.
Tiens, 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 déjà les feuilles poussent. Tiens, 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 ça sent le romarin. Dans les jardins, les lilas se trémoussent et les petites pommes ont déjà le pépin.
Tiens, 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 les chiens lèvent la patte. Tiens, 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 les pans font des pantins.
On voit les chasses pour les chèvres, pour les chattes,
et les escargots galoper à fond de train.
Ah, quelle douceur, la vie vous semble rose, y a pas d'erreur, il se passe quelque chose.
Tiens, 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 on joue de la mandoline.
Tiens, 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 l'air s'emplit de refrain.
Y a des chansons sur les lèvres des copines
et des petits boutons sur le nez des copains.
Tiens, 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 c'est le printemps qui vient.
Tiens, 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 les rues semblent en fête.
Tiens, 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 tout le monde est gamin.
Les policiers ont des airs de poètes et tous les coiffeurs ont du poil dans la main.
Tiens, tiens, tiens,
potinent les commères.
Tiens, tiens, tiens,
et les politiciens. Même les pompiers ont le feu au derrière.
Les rouquins roucoulent et les bègues ont le béguin.
Les vieux gamins ont toutes les audaces. Mais il faut bien que vieillesse se passe.
Tiens, tiens, tiens,
la gaieté me transporte.
Tiens, tiens, tiens,
je me sens aérien.
Mais voilà soudain que l'on frappe à ma porte et je reconnais la voix que j'aime bien.
Tiens, 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 c'est le printemps qui vient.
Ah, cette chanson que j'adore, je l'ai passée souvent dans la version originale par l'orchestre de Ray Ventura, mais ça c'est une très jolie reprise de 1993 sous la houlette de Sacha Distel, avec notamment les voix de Jean-Pierre Cassel, Michel Legrand, Guy Marchand et même le compositeur Paul Misraki, un très joli enregistrement printanier. Et restons printaniers avec la valse d'un dimanche que j'ai retrouvé également cette semaine. C'est un des premiers enregistrements de Suzy Delaire. À l'époque, on écrivait encore son nom avec un E, L-A-I-R-E, comme dans l'état civil, avant qu'elle ne devienne Suzy Delaire, de son vrai nom d'artiste, la valse d'un dimanche en mai 1943.
Le soleil entre les branches caressait les câbles.
que pour s'y taire, on se réveille à château. Le cœur gros, la bouche amère, timidité à plat.
C'est pour bientôt les guinguettes au bord de l'eau. Juste un tout petit peu de patience. Là, c'était Suzy Delair avec l'orchestre de Marcel Cariven. On va d'ailleurs la retrouver tout à l'heure avec mon invité Maurice Xibera, Suzy Delair. Mais en attendant, puisque c'est le printemps, allons donc également faire un petit tour en forêt.
Allons, viens vite, allons, viens.
C'était pas Micheline Dax, c'était Mario Juillard, le roi des siffleurs, dans un coffret signé bien sûr de notre ami regretté Pierre-Marcel Onder. Le morceau s'appelait « Printemps en forêt » en 1957 avec l'orchestre de Raymond Legrand. Et avant de retrouver mon invité Maurice Xibera, allons faire un petit tour du côté de l'opérette viennoise, comme chaque semaine en ce second trimestre. Et l'opérette viennoise, eh bien, nous évoquons en ce moment donc la jeune génération apparue dans les années 30. Je vous parlais la semaine dernière de Paul Abraham. Je voudrais aujourd'hui vous faire entendre quelques pages de Fred Raymond, qui a laissé sans doute un moins grand souvenir en France, mais c'est un compositeur important, né en 1900, mort en 1954. Contrairement à Paul Abraham, évidemment, il est resté en en Allemagne après la période nazie, en Allemagne et en Autriche, puisque c'est à l'origine un compositeur viennois, mais il est devenu compositeur assez officiel du théâtre Métropole de Berlin. Pour autant, on ne peut pas dire que l'opérette de Fred Raymond soit engagée politiquement. Elle reste fidèle aux standards de cette opérette viennoise moderne, entre grandes valses, accent tzigane, et puis couleur aussi de musical, et voire de jazz un petit peu plus moderne. Et c'est le cas notamment de son plus grand succès de 1937, qui s'appelle Mask in Blau, qui restera d'ailleurs une œuvre très populaire après la guerre. Elle sera tournée encore en film en Allemagne dans les années 50. Elle sera présentée pour la première fois en France, à Strasbourg également, dans les années 50, en version française, Mask en bleu. Elle a laissé beaucoup de tubes, cette opérette de Fred Raymond. Et je vous propose d'écouter deux pages. L'œuvre se déroule d'ailleurs, je précise, entre l'Italie et l'Argentine. Alors on va entendre d'abord justement au premier acte Printemps à San Remo, chanté par Emily Luz. Donc là, c'est le versant italien. Et puis ensuite, on va retrouver dans la partie argentine de l'œuvre l'autre personnage important qui s'appelle Julie, la petite Julie de Budapest. Et c'est une œuvre qui est restée très très célèbre dans la musique populaire allemande. Elle est chantée par Anneliese Rottenberger.
Bis sie sich bei Küsse lässt. Joy! Joy! Ja!
deux très grandes artistes allemandes, Emil Ose et Anneliese Rottenberger, dans ces deux pages extraites de Mask in Blau, l'opérette de Fred Raymond, qui a donc été sans doute avec Robert Stolz un des derniers grands maîtres de l'opérette viennoise. Ici un enregistrement de radio allemande placé sous la direction de Wilhelm Stephan, c'était en 1953.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et nous sommes ensemble ce matin avec bien sûr mon invité qu'on va retrouver maintenant. Il va nous conduire à Marseille, qui est vraiment une ville où l'opéra français, l'opérette, l'opéra comique sont à l'honneur plus que partout en France. Cela méritait bien une émission spéciale en compagnie du directeur du théâtre de l'Odéon et de l'opéra de Marseille, Maurice Xiberas.
Frère, là-bas, regardez-nous cet homme. Il s'approche de nous, ses plongeons vers le sol, cette canne à la main, ses gants de filoselle. Comme il est drôle, un vrai guignol qu'on tire par une ficelle.
Je suis kangourou, salut, dis messieurs, blanchisseur, interprète, et j'en risque l'aveu. Prête, dis messieurs, je suis kangourou, salut, dis messieurs, blanchisseur, interprète, prête, dis messieurs. Agent discret pour mariage, discret, toujours. Fournisseur de toutes les courses étrangères, et davantage, dis messieurs. L'agence Kangourou-san, empressement, prudence et l'hérité, discrétion. Dis messieurs, connaît le Mikado, puis y avoir audience. Voulez-vous converser avec ces dames? Bon, ce que vous aurez à dire, je vais le traduire honnêtement. Dis messieurs, tout cela, pour moi, n'est qu'un jeu. Avez-vous à blanchir du linge, quitte que nul n'hésite. Donnez, je le rendrai plus neuf, plus blanc, plus fin. Dis messieurs, parle tous les langages, anglais, français, européen, sauvage. Tout ce qu'on veut, je l'ai là sous la main. Je suis kangourou sale, dis messieurs, blanchisseur, interprète, et j'en risque l'aveu. Poète, dis messieurs, je suis kangourou sale, dis messieurs. Blanchisseur, interprète, poète, dis messieurs.
Bonjour Maurice Xiberas.
Bonjour.
Ce n'est pas vous, monsieur Kangourou, hein, qu'on vient d'entendre, qui vient d'arriver sur scène dans Madame Chrysanthème le Messager. Là, c'était René Lenoti qui chantait, je crois, l'unique enregistrement, une archive de la radio de 1956.
Heureusement.
Heureusement qu'on l'a, oui, vraiment. Mais grâce à vous, Maurice Xiberas, on a pu redécouvrir, il y a quelques jours, hein, cette Madame Chrysanthème en version concert à Marseille. Quelle bonne idée.
Mais oui, j'ai ce défaut d'aimer le répertoire français. Le répertoire français à la fois léger, puis un peu plus sérieux. Quelquefois, on me le reproche. On me dit que c'est une connotation ringarde et provinciale.
Ah,
mais j'assume.
Bah, bien sûr.
J'assume. Voilà, du fond du cœur. Et donc, je trouvais intéressant, étant donné qu'on avait programmé Madame Butterfly, de présenter cette Madame Chrysanthème entre les représentations de Butterfly, puisqu'il y a le roman de Pierre Loti, Madame Chrysanthème.
Voilà, parce qu'en fait, il faut le rappeler, peut-être beaucoup d'auditeurs ne le savent pas, que cette Madame Chrysanthème, c'est un opéra comique de Messager qui est antérieur à Madame Butterfly et qui en fait est basé sur le même sujet de Pierre Loti.
Tout à fait. Sauf qu'il est moins dramatique, la fait moins dramatique que chez Messager, que chez Puccini.
C'était donc une version concert, mais c'est bien les versions concert aussi.
Mais oui, ça permet d'entendre, justement d'avoir une lecture, d'investir moins de moyens aussi, parce que les productions, effectivement, c'est très cher. Il faut des décors, il faut des costumes, un long temps de répétition pour essayer de réunir des artistes. Et la version concertante, alors le temps est beaucoup moindre et puis effectivement, ça demande moins d'argent.
Comment vous l'avez trouvé d'ailleurs, cette Madame Chrysanthème? Honnêtement, parce que c'était une redécouverte, voilà.
Alors moi, j'adore. Je suis peut-être pas très objectif. J'adore toute cette musique légère de Messager, c'est-à-dire Véronique, la basoche et bien d'autres. Je trouve que l'orchestration est fabuleuse. Alors peut-être que le livret
est moins bien que celui de Puccini.
Peut-être un point moins fort. Il y a de tellement belles mélodies. Il y a des couleurs orchestrales. On sent que Messager est un maître, justement. Il a fait cette synthèse de tout cet esprit français.
En tout cas, Maurice Xiberas, c'est pour moi une joie de vous recevoir parce que Marseille est vraiment une ville étonnante. Hein. Elle est à la fois française et méditerranéenne. Mm-hmm. Elle est à la fois sublime et chaotique. Et puis, c'est la ville aujourd'hui où l'on peut entendre le plus d'opéras français, d'opérettes françaises, de répertoires lyriques rares, qui a complètement déserté Paris et les grandes villes, les grandes capitales de province, sauf Marseille. Comment vous expliquez ça? Vous avez encore un théâtre d'opérette, vous programmez encore des quantités d'opéras français oubliés, mais qu'est-ce que c'est que cet esprit qui souffle sur Marseille?
Oui, je programme aussi les chanteurs français, les artistes français, on me le reproche aussi quelques fois. Simplement, bon, c'est mon goût personnel, un goût que j'ai hérité depuis mon enfance, lorsque je traînais mes guêtres à l'Opéra de Marseille, justement où j'entendais tout ce répertoire, le répertoire léger, le répertoire d'opérette, au répertoire d'opéra français. Ouais. On avait cette chance autour de Marseille aussi d'avoir l'Opéra de Toulon, l'Opéra de Nice, l'Opéra de Montpellier, l'Opéra d'Avignon, où effectivement on défendait ce répertoire. Et puis j'ai été aussi l'élève quelque part de René Auphan.
Voilà, qui vous a précédé à la direction et qui avait déjà donné cette ligne, effectivement, très française et très basée sur des redécouvertes.
C'est grâce à elle qu'on a redécouvert un peu Damase. Voilà. Jean-Michel Damase avec L'Héritière, avec Colombe, et puis L'Aiglon.
Voilà. Mais la différence avec René Auphan, et on va y revenir tout à l'heure, c'est que vous dirigez d'une part l'opéra, mais aussi le théâtre d'opérette, qui est le théâtre Odéon. On va en parler. Mais si vous voulez, on va d'abord peut-être faire un petit retour sur un grand personnage marseillais, musicien, qui, je crois, vous a beaucoup marqué. C'est le pianiste Pierre Barbizet. La joyeuse marche de Chabrier, piano à quatre mains avec Jean Hubeau et Pierre Barbizet. Donc Pierre Barbizet, grande figure marseillaise, parce que oui, c'est vrai, Maurice Xibéras, il aurait pu faire une très grande carrière internationale. C'était l'un des grands pianistes français de sa génération. Il a quand même choisi de rester très marseillais.
Oui, il a trouvé son port d'attache, j'allais dire. Il est arrivé à Marseille, il est resté. C'est lui qui a fait ce conservatoire qui porte son nom maintenant. Ouais. Conservatoire national, à rayonnement régional, Pierre Barbizet. Il a créé des classes, il a su fédérer aussi des professeurs, faire venir des stars internationales pour créer des cours. Et c'était un personnage fabuleux.
Vous l'avez bien connu?
Ah oui, bien sûr, j'ai eu des cours de piano avec lui.
Oui. Vous vouliez être pianiste à l'époque?
Ah ben oui, c'était le cursus, pas obligatoire, mais à l'époque on commençait par le solfège, la théorie, on faisait un peu d'harmonie, on se mettait au piano, et puis après on se découvrait vers 16 ans une voix, donc voilà, on faisait du chant, puis, etc. Et Barbizet avait une voix rocailleuse, un peu torrentielle, on entendait sa voix gronder dans les couloirs. On était très nombreux, plus de 2000 élèves, et puis il connaissait tout le monde par le petit nom, il savait nos parcours, et c'est quelqu'un de fabuleux. Et justement, Barbizet, c'est lui qui m'a parlé la première fois de Chabrier en me disant, en classe de chant, il m'a dit, toi, tu devrais regarder un peu Le Roi malgré lui, toi là-dedans, et puis regarde aussi l'éducation Anquet, et puis peut-être aussi l'étoile. Tu trouveras des choses à chanter, à te mettre sur...
Il connaissait tout ça, donc.
Ah, mais bien sûr.
Et Maurice Xibéras, vous êtes un enfant de Marseille?
Ah oui, je suis né à Marseille, mes parents, ouais. Oui, 4 générations.
4 générations. Donc cette ville, vous la...
Ah oui,
comme vous dites. Alors Marseille, c'est pas loin d'Aix-en-Provence, et il y a eu aussi, je crois, un autre personnage important dans votre vie, ça a été ce grand directeur d'Aix et de l'Opéra de Paris, qui était Bernard Lefort.
Ah oui, j'ai eu la chance de le rencontrer, parce que Bernard Lefort était directeur de l'Opéra
et
de Marseille.
Et chanteur lui-même, d'ailleurs.
Chanteur. Bien sûr, bariton. Il était directeur de l'Opéra de Marseille pendant 3 ans. Ça a été assez mouvementé, son passage à l'Opéra de Marseille, parce qu'il était assez visionnaire. C'est lui qui a amené un nouveau répertoire, un répertoire de création contemporaine, comme les Mines de Soufre. Et ça plaisait pas tout à fait aux Marseillais,
au public marseillais,
qui était plutôt un public traditionnel. Voilà, et de grands répertoires.
C'était quoi la tradition d'ailleurs de Marseille? C'était l'opéra italien beaucoup
Oui, le grand opéra français aussi. Hérodiade, La Juive, Les Huguenots, ouais. La Favorite. Enfin, c'est pas français, mais en version française.
Et donc Bernard Lefort, oui.
Alors oui, Bernard Lefort, donc, était directeur donc à l'Opéra de Marseille. Moi, j'ai pas connu l'Opéra de Marseille, j'ai connu au Festival d'Aix-en-Provence, parce que j'ai eu la chance de travailler petite main, j'allais dire, fabriquer des accessoires, faire de la régie lumière, faire...
Vous avez tout fait.
Ouais.
Voilà.
Ah oui, oui, vraiment.
Quand on veut entrer dans le monde du spectacle, hein, faut faire...
Ah oui, comme si on peut pas vous en raconter. Après,
quand
en maison de père, on peut pas vous en raconter. Et Bernard Lefort, je prenais un malin plaisir, je veux dire, à le questionner.
À ce moment-là, donc, votre première vocation, celle de chanteur, c'était un petit peu découverte. C'était votre but?
Non, ça a été un accident. Bon, j'ai eu toujours une petite voix, une gentille voix. Et au lycée à Marseille, une copine qui était en classe de chant de Christiane Castelli, qui était une grande soprano de l'Opéra de Paris, qui avait chanté Marguerite de Faust et Elisabeth de Don Carlo et Tosca, surtout plus de 400 fois Tosca. Et elle m'a dit, mais viens la voir. Donc je suis rentré dans ce cours de chant. Elle m'a dit, mais mon petit, t'as une petite voix. Très jolie, on va développer ça. Et puis voilà. Et puis après, bon, j'ai continué. J'ai eu ma médaille d'or. Et puis je me suis inscrit en cachet de mes parents à l'atelier lyrique de l'Opéra de Lyon.
Voilà, ça c'était important aussi. Eric Tapie, ouais. Ça a été de belles
grand
années
moment.
Pour ceux qui
y
sont passés.
Avec un grand pianiste qui s'appelait Ruben Lipchitz, qui vient de nous quitter, avec qui j'ai travaillé tout le répertoire français en mélodie, histoire naturelle, entre autres. Formidable.
Mais donc à ce moment-là, vous n'imaginiez pas que vous seriez un jour directeur d'opéra pas chanteur lyrique.
Et surtout pas à Marseille, parce que c'est le temple pour moi. C'était un temple, Marseille.
Bon, et finalement, vous êtes devenu un directeur, mais vous avez quand même été chanteur. Alors, j'ai même retrouvé, figurez-vous, quelques petits bouts d'enregistrement. Oh là là, ça n'a pas l'air de vous plaire.
Non.
Bon. On va vous écouter, mais justement, l'opérette, tiens, vous écoutez le General Boom avec la compagnie. Vous avez tourné avec Olivier Desbordes, l'opéra éclaté.
Les grandes séries, on faisait 150 grandes duchesses, des séries de 60 représentations de Belle Hélène, c'était formidable.
Voilà. Alors, on vous entend tout de suite dans le General Boom, et puis tout de suite après, eh bien, la chère René Auffant, qui vous a précédé à Marseille, qui a aussi beaucoup chanté, et également dans un autre air extrait, lui, de La Belle Hélène.
À cela, si la discipline par les allons, je me défends, moi, j'extermine les bataillons. Le miséré, le mis-se-cache, tremblant penaud, quand il aperçoit le panache que j'ai là-haut. Le panache que j'ai là-haut, oui. Et bis-la, pousse, les dards à ma poule, je suis mort à le général, boum, boum. Et bis-la, pousse, les dards à ma poule, je suis mort à le général, boum, boum. Et
dans le salon après la guerre. Je reparais la plus belle pour me plaire. Se met au frais, elle caresse ma moustache en souriant. En ce moment, la montanache est fort gênant. Mon paratache est fort gênant. Oui, et vif ma fou, et taratamakou, je suis mort le général. Oh, oh, et vif ma fou. Je suis mort le général Boum Boum.
Et vive ma peau, et à la bande à peau, il est vive le général Boum Boum. Et vive ma peau, et à la bande à peau, il est vive le général Boum Boum.
C'est Parthénis et Léna.
Oui, que faire, que faire, oh là là. Oui, que faire, oh là là. Oh là, oh là, que faire, oh là là. Oh là là,
oh là là. Oui,
que faire, oh là là.
Oh là là, oh là là.
Oui, que faire, que faire, oh là là.
Oh là là, oh là là.
Oui, que faire, oh là là.
C'est Parthénis et Léna.
Et voilà, les directeurs de l'Opéra de Marseille savent chanter. On vient d'en entendre deux successivement. D'abord vous-même, Maurice Xiveras, dans La Grande Duchesse. Et ensuite René Auffant dans La Belle Hélène. Elle chantait le rôle d'Oreste et c'était Michel Trampon qui lui donnait la réplique. Vous le voyez de temps en temps, je crois.
Oui, Michel Trampon, j'ai cette chance d'avoir pas mal d'anciens autour de Marseille et je les invite cordialement.
J'aime bien la Côte d'Azur pour leur retraite, en général, les chanteurs.
Je les invite cordialement à venir assister aux représentations au général de l'Opéra de Marseille.
Vous les voyez donc.
Ah, souvent, on refait le monde. On
Michel parle Trampon, des anciens. Charles Burle.
Charles Burle, Jeannine Ribaud, puis dans le temps plus ancien, malheureusement, ils partent les uns après les autres. Il y avait Simone Coudert, et puis bien d'autres.
Voilà, bah en tout cas, c'est bien de maintenir ce lien avec les grands chanteurs français qui sont encore des modèles aujourd'hui. Alors, donc, on a entendu René Auffant, qui vous a précédé à l'Opéra de Marseille, mais qui, même bien avant ça, a joué un petit peu un rôle dans l'évolution, justement, de votre carrière et dans le passage de la vie de chanteur à la vie de programmateur.
Oui. J'ai eu la chance, donc, de rencontrer René Auffant. Et lorsque René Auffant avait été contacté pour venir à l'Opéra de Marseille, elle savait que j'étais marseillais, que je connaissais bien l'Opéra de Marseille.
Vous l'aviez connue
en tant que chanteuse, en tant que directrice de l'Opéra de Lausanne. Puis René Auffant, j'avais entendu chanter aussi à Marseille dans le Blanche du Dialogue des Carmélites, dans les Mamelles de Tirésias et des créations contemporaines. Et donc, il y a un courant de sympathie qui est passé entre nous deux, comme ça. Et puis elle m'a dit, Maurice, il faut venir travailler avec moi. Mais j'ai dit, moi, je ne saurais jamais faire ça. Elle m'a dit, mais oui, vous avez créé déjà le Festival de Musique Sacrée à Marseille, il faut venir. Vous connaissez tout le monde, venez.
C'était quoi votre compétence peut-être assez, c'est l'art de trouver des voix.
Il y avait ça, la connaissance du répertoire, peut-être le sens de l'organisation pour essayer de fédérer, justement coordonner un peu toutes les équipes. Et puis je pense que pour travailler l'Opéra de Marseille, il faut être marseillais. Voilà, il faut avoir un décodeur au niveau du vocabulaire, au niveau d'un marche à suivre.
Écoutez, je sais pas, hein, mais j'ai remarqué au fil du temps, quand j'ai eu des discussions avec des metteurs en scène, des chefs d'orchestre ou autres qui sont passés par Marseille, c'est toujours une expérience qui n'a pas de comparaison. Ouais, c'est un truc très singulier.
C'est tout à fait singulier. C'est un peu marche ou crève. J'allais dire, c'est pas ça. Non, j'exagère. J'exagère, mais l'opéra est à l'image de la ville. C'est-à-dire, c'est un opéra passionné, de chair, de sang. De la même manière, le public n'est pas peint sur le fauteuil. Je le dis souvent, c'est un public qui vit. Alors, quand ils aiment les chanteurs, ils font des triomphes inimaginables. Qu'ils les aiment pas aussi, c'est la même chose. Ils se font entendre.
Alors, rappelons d'ailleurs que l'opéra de Marseille, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un bâtiment extraordinaire.
Ah oui, superbe, Art déco.
Art déco, un des plus beaux.
1800 places.
Et refait récemment, remis à neuf.
Non, pas tout à fait remis à neuf. Les façades ont été remises à neuf. Il y a aussi la toiture, et puis, ça coûte de l'argent, tout ça, on attend un peu pour refaire la salle.
Voilà. Et puis, l'orchestre, c'est donc une structure un peu particulière, parce qu'elle est entièrement municipale, contrairement à beaucoup d'autres opéras français qui ont des soutiens de l'État ou des régions. À Marseille, tout est municipal. L'opéra, l'orchestre, les chœurs sont autant d'entités.
Tout à fait. L'orchestre fait partie de l'opéra. Voilà. Et lorsqu'il joue dans la fosse d'orchestre, ça s'appelle l'Orchestre de l'Opéra de Marseille. Et lorsqu'il est en concert, l'Orchestre Philharmonique.
Voilà. Mais tout ça dépend directement du maire de Marseille, en fait.
Oui. Voilà. C'est une volonté politique. C'est Jean-Claude Gaudin, notre maire, qui décide qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'opéra. Il faut que les Marseillais puissent aller à l'opéra. De la même manière, s'ils ont envie d'entendre de l'opérette, il faut qu'ils puissent entendre.
Voilà, ça on s'en réjouit. Je l'ai dit d'emblée, on a tous envie, quand on aime cette musique, d'habiter à Marseille, parce que c'est à peu près la seule ville où on peut l'entendre aujourd'hui. Mais alors, donc vous avez travaillé pendant longtemps avec René Auffant et vous avez finalement pris sa succession.
Oui, et lorsque René a fait valoir ses droits à la retraite, comme on dit publiquement, la question s'est posée de sa succession. Et dans une réunion au bureau chez Jean-Claude Gaudin, on a dit peut-être le mieux placé serait Maurice pour qu'il puisse me succéder. Donc René est d'abord resté comme conseiller artistique pendant une année, et ensuite elle est partie définitivement de l'Opéra de Marseille, et j'ai pris sa succession dans un premier temps en tant que directeur artistique, et ensuite directeur général.
Voilà, et on le voit alors par exemple dans la saison en cours, avec toujours beaucoup de musique française, et puis des raretés, aussi bien sûr du grand répertoire, mais dans ces raretés, je cite par exemple, c'était au début de la saison, le portrait de Manon, qu'on n'entend jamais.
Non, rarement.
Vous avez donné Manon et le portrait de Manon du même Massenet.
Voilà. Je trouvais intéressant justement de mettre ça en écho par rapport au grand ouvrage, au grand répertoire qu'est Manon, avec du ballet, avec un grand chœur, avec énormément de solistes sur scène. Je trouvais intéressant de présenter ce portrait de Manon, qui est l'histoire de Manon 20 ans après, en gros, avec les mêmes thèmes musicaux. Puis c'est une découverte pour le public marseillais.
Réussi
pour vous? Oui, vraiment, une grande réussite. Tout comme Madame Chrysanthème, les gens qui étaient là dans la salle ont adoré.
Et alors, autre redécouverte de la saison très importante, et ça coïncide avec la parution d'ailleurs d'un enregistrement discographique, c'est L'Aiglon, d'Honegger et Ibert, un opéra donc écrit à quatre mains par ces deux grands compositeurs du XXe siècle. On va en parler tout de suite, je propose qu'on écoute simplement le début, on va tout de suite voir dans ce prélude d'ailleurs plutôt le style d'Honegger dans les premières mesures, et puis celui d'Ibert qui prend le dessus ensuite dans une très jolie valse de style un peu viennois.
sage, enfant déchu d'une race divine. Tu portes sur ton front ta superbe origine. Je demande pardon, ma mère, à Lamartine.
Assez, cela suffit.
Non, mon fils, que mon cœur s'épanche.
Dois-je apprendre au fils de l'empereur que la cocarde en France a repris ses couleurs?
Mais alors, le drapeau!
Ne faites pas encore la moindre allusion au drapeau tricolore.
Moi, si je dois régner, c'est avec ce drapeau, nous ne serons le bas et le ciel est par le haut.
Le début de L'Aiglon d'Arthur Honegger et Jacques Ibert, avec ce mélange de styles, mais qui est très cohérent d'ailleurs dans la musique. Je crois qu'on ne voit pas trop le passage de l'un à l'autre, hein, Maurice Xiberas. Donc là, on a entendu les personnages principaux, c'est-à-dire L'Aiglon lui-même, chanté par Anne-Catherine Gillet dans cet enregistrement, Séraphin Flambeau par Marc Barrard, qui était aussi dans votre production de Marseille, et puis Le Prince de Metternich par Étienne Dupuis, et également La Mère, évidemment l'impératrice Marie-Louise par Marie-Nicole Lemieux. Beaucoup d'eau dans ce disque qui vient de paraître chez Decca. C'est un hasard que vous l'ayez produit au même moment, mois de février.
Oui, je pense tout à fait par hasard. En fait, la redécouverte de L'Aiglon est un peu due à René Auffan. Lorsqu'elle était directrice de l'Opéra de Marseille, c'était un rêve qui l'a hanté depuis de nombreuses années, mais elle voulait trouver la personne idoine pour camper le rôle de L'Aiglon. Il y avait Alexa Cousin. Ouais. Donc, le jour où elle a découvert Alexa Cousin, elle a dit, il faut monter L'Aiglon. Patrice Corrier-Mouchelaiser, donc, on fait la mise en scène de L'Aiglon, qui est une mise en scène non pas de reconstitution, mais une mise en scène historique. Ça se passe à l'époque, il n'y a pas de transposition.
Ah, très bien, vous me faites plaisir. Ça devient rare de nos jours.
On reconnaît vraiment tous les personnages historiques. Quel serait l'intérêt de faire passer ça, dans un supermarché ou Galerie Lafayette?
Je suis bien d'accord avec vous, mais malheureusement, vous êtes un peu minoritaire.
Eh oui.
Mais dites-moi, quel est exactement, donc, le lien entre cet opéra, donc d'Honegger et Ibert, qui date de 1937, je crois, qui a été créé à Monte Carlo, et la pièce créée quelques décennies avant d'Edmond Rostand.
C'est sur l'opérette, donc, est écrit vraiment
sur le texte
d'Edmond Rostand. On retrouve les mêmes tirades de Flambeau, Nous les Sangrades et tout ça. Et Edmond Rostand était marseillais, faut pas l'oublier.
Ah oui, c'est vrai.
Et oui, grande famille marseillaise.
Pour vous, ça a été une belle redécouverte, donc, cette
Aiglon. Ah oui. Et puis, c'est un chef-d'œuvre. Je ne comprends pas que cette roche ne soit pas jouée à Paris, ne soit pas jouée à l'Opéra de Paris ou à l'Opéra Comique.
Encore faudrait-il qu'ils sachent que ça existe. Enfin, je parle pour l'Opéra de Paris, en tout cas. L'Opéra Comique, peut-être, on aurait une chance. Mm-hmm. En tout cas, vous êtes là, heureusement, à l'Opéra de Marseille, avec, je l'ai dit cette année, Manon, Le Portrait de Manon, La Vie Parisienne, L'Aiglon, Madame Chrysanthème pour le répertoire français, et puis aussi, bien sûr, du grand opéra italien, et notamment Madame Butterfly, Le Così fan tutte de Mozart, Macbeth, le grand répertoire n'est pas oublié, loin de là. Mais on parlera peut-être tout à l'heure de la prochaine saison. Je voudrais maintenant qu'on parle un peu de votre autre théâtre, qui est celui de l'Odéon. Et l'Odéon, qui est donc le théâtre qui, on peut dire à Marseille, se consacre à la fois au théâtre de divertissement,
à
l'opérette.
À l'opérette, c'est ça. Ça, là aussi, c'est une volonté municipale, à savoir que lorsque la mairie de Marseille a racheté cette salle, qui était devenue un cinéma, un grand cinéma, la mairie donc a décidé d'en faire un théâtre de divertissement, de pur divertissement, c'est-à-dire théâtre du boulevard, effectivement, et opérette.
Voilà, c'est-à-dire donc La Biche, Feydeau sont à leur place, tout comme Messager, Maurice Yvain, voilà, etc. Voilà. Et je le dis, c'est aujourd'hui le dernier si on peut dire, théâtres d'opérettes permanents en France. Ils ont disparu de quasiment toutes les villes. À Paris, où il y en avait 30, il n'y en a plus un seul. Mais dans les autres grandes villes de province, malheureusement, il n'y en a plus non plus, sauf cet Odéon de Marseille. Et juste pour faire baver nos auditeurs qui aiment l'opérette, je vous dis que cette année, si vous étiez marseillais, à l'Odéon, vous pourriez voir dans la même saison Le Pays du Sourire, Un de la Canebière, Andalousie, Pas sur la bouche, La Péricole, Les Trois Valses, Les Mousquetaires au couvent, rien que ça. Ben écoutez, merci Maurice Xibéras. Et on va tout de suite écouter, avant d'en parler un peu plus en détail, un extrait de votre prochaine production. Je crois que c'est Les Trois Valses, justement. Oui. Et vous avez choisi la version de notre chère Suzy Delair. La valse du destin par Suzy Delair, qu'on salue, évidemment, on est toujours heureux de l'entendre ici, mais c'est vous qui l'avez choisi, hein, Maurice.
Ah oui, moi, j'ai une admiration sans borne pour Suzy Delair, moi, elle a nourri mon imaginaire. L'Assassin habite au 21, Lady Paname, Quai des Orfèvres, c'est un monument, on devrait lui dresser une statue.
Ah bah, écoutez, bien volontiers, mais on essaie de la lui dresser d'ailleurs régulièrement sur cette antenne. Là, c'était dans les Trois Valses, dans Trois Valses d'Oscar Strauss, que vous donnez le 23 et 24 avril, donc au Théâtre de l'Odéon, sous la direction de Bruno Membré, dans une mise en scène de notre ami Yves Coudray, qui est un peu un habitué de la maison.
Oui, chaque année, j'essaie de lui confier une mise en scène, puis il vient chanter aussi quelquefois. Justement, il était dans L'Aiglon. Dans L'Aiglon que nous avons présenté cette année aussi à l'Opéra de Marseille. C'est quelqu'un de talent, c'est quelqu'un qui a gardé cet esprit français, qui adore ce répertoire.
Oui, et quand on monte Trois Valses, la difficulté, c'est quand même qu'on a tellement dans l'oreille Yvonne Printemps en particulier qu'il faut trouver une chanteuse à la hauteur. Ouais, alors.
Et là, justement, donc c'est Laurence Jeannot qui l'avait fait à l'Opéra Comique, une grande série à l'Opéra Comique, qui était danseuse elle-même, qui faisait partie du corps de ballet de l'Opéra.
C'est vrai.
Donc c'est une chance inouïe. Puis elle est belle, elle a un physique de rêve, et puis elle joue la comédie comme personne, et c'est une voix plus qu'un joli brin de voix, vraiment, vraiment c'est une voix conséquente d'opéra.
L'Odéon, donc théâtre d'opérette, a été longtemps dirigé par Jean-Jacques Chazalet, hein, que j'avais reçu ici même. Donc vous lui avez succédé, vous avez gardé là aussi la ligne, si on
peut
dire.
Ah oui, enfin, il fallait, c'était un peu la condition. C'est-à-dire que lorsque le maire m'a demandé de reprendre l'Odéon, il m'a dit « je vous demande de continuer à faire de l'opérette et du théâtre de boulevard ».
Voilà. Le changement, le gros changement, c'est qu'il y a une fusion institutionnelle, si je peux dire, entre l'opéra et l'Odéon.
Et l'Odéon, c'est-à-dire c'est la même direction, la même administration. Et puis on peut s'appuyer maintenant sur nos ateliers de décor, c'est-à-dire que chaque année maintenant on fait à peu près 2 ou 3 nouvelles productions qui sont fabriquées dans les ateliers de décor de l'Opéra de Marseille. Les costumes, certains costumes sortent aussi de nos ateliers de costumes, ça nous permet de mettre plus de moyens dans les productions.
Ce ne sera pas donc au détriment de l'opérette?
Ah non, cette fusion. Au contraire.
On a toujours un petit peu peur.
Surtout pas, l'année prochaine il y aura à nouveau 7 titres d'opérette à l'affiche.
Et on peut imaginer, bah vous le faites d'ailleurs avec La Vie parisienne, d'avoir aussi un peu d'opéra bouffe, d'opérette à grand spectacle sur la scène de l'opéra.
Oui, il faut. Disons que sur la scène de l'opéra, par exemple, je ne peux pas présenter Fifi, je ne peux pas présenter Les Trois Valses, je ne peux pas présenter Dédé ou Pas sur la bouche. C'est parce que la scène est trop grande et la salle 1800 places, une fois de plus, c'est trop grande. Donc je privilégie plutôt La Chauve-Souris ou La Vie parisienne, La Belle Hélène, enfin du lourd.
Maurice Xibéras, quand on parle d'opérette à l'Odéon ou ailleurs, en tout cas, ça a été longtemps le problème. Il y a eu un certain vieillissement du public. Vous, je crois que vous croyez beaucoup au renouvellement du public de l'opérette et à l'intérêt notamment qu'elle peut avoir pour le jeune public.
Ah oui, c'est notre mission, j'allais dire, parce que sinon, effectivement, demain, dans 10 ans, on ferme les salles, que ce soit même pour l'opéra aussi. Hein, non, ce qu'on fait, nous, depuis des années, on a un projet pédagogique au niveau de l'opéra qui marche plutôt bien, puisqu'on touche à peu près 7000 collégiens par an. Et je vais faire ça justement à l'Odéon. C'est-à-dire qu'on prépare, via des médiateurs dans les collèges, on prépare donc des collégiens, des adolescents à venir voir l'opérette, soit une représentation, soit une générale.
Et ça leur plaît.
Et ça leur plaît. Moi, je vois ça. On a joué Pas sur la bouche là, de Yvain. C'est un succès formidable. Et je me rappelle toujours lorsqu'on a fait venir des gamins de quartier nord découvrir le Barbe Bleue de Jacques Offenbach. Ils chantaient le refrain en sortant sur la canne bien. Ensuite, je suis Barbe Bleue, il est Barbe Bleue. Et c'est génial.
Ah, c'est formidable.
Alors, on sème des graines comme ça, même. Bon, on verra bien ce qui poussera après.
Et votre Pas sur la bouche, on peut le voir d'ailleurs sur Culture Box.
Culture Box, là pendant 6 mois, puis ensuite sur France 3.
Et vous pourriez nous donner un petit peu quelques titres à venir pour l'Odéon, peut-être pour la prochaine saison ou les saisons à venir.
Il y a des incontournables, je vous parle. Les incontournables, il y a La Belle Hélène, mais sur La Route Fleurie, il y aura aussi Dédé et Violettes Impériales de Vincent Scotto.
Voilà, ça fait pour la couleur méditerranéenne, là encore. Écoutez, on va peut-être rendre un autre hommage à une autre grande artiste qui, elle, vient de nous quitter et que vous avez choisi, Maurice Xibéras, c'est Denise Duval.
Oui. Grande Denise Duval, qui est l'égérie, bon, c'est de Francis Poulenc. C'était quelqu'un de charmant vraiment dans la vie. J'ai cette passion aussi d'écrire. Alors, j'aime bien écrire aux gens et je lui avais écrit plusieurs fois. J'ai déclaré ma flamme, mon amour, mon admiration. Et elle m'avait répondu. Elle m'avait envoyé des photos de Francis Poulenc d'elle-même. Puis on correspondait.
Voilà. Et on la retrouve ici dans le final de La Poule Noire de Manuel Rosenthal.
Constance de la décence.
Ce que le poids les plus fidèles vous trompent et attirent l'arigot.
Enfin, voyons, fais attention, Constance. Voyons, pense un peu garde aux circonstances. Constance, voyons ma fille.
C'est une affaire de
famille. Son mari n'était qu'un coujac, qu'un dégoûtant, qu'un sale égo.
Voyons Constance, de la décence.
Qui dès le premier jour des noces, la trompe et t'attire l'arigot.
Enfin, voyons, fais attention Constance. Voyons, pense un peu, garde aux circonstances.
Avec sa guitare, ombre d'un jeune écrivain.
je connais en Andalousie. Une fonda mystérieuse, nous fermerons les jalousies et mènerons la vie joyeuse. Vous porterez une lentille,
une lentille portera.
Nous passerons par la Castille, le Portugal, l'Estramadure. Nous danserons à Ségovie.
Je danserai toute ma vie.
Puis nous célébrerons nos noces à la cathédrale de Burgos. Nous irons vivre à Saragosse et nous aurons beaucoup de corps.
Finale de La Poule Noire par Denis Duval et son complice habituel Jean Giraudeau, tous sous la direction de Richard Blarot. Voilà, c'était encore un choix de mon invité aujourd'hui, Maurice Xibéras. Ça fait plaisir de voir un directeur d'opéra français qui aime tout ça, qui connaît tout ça. Je vous assure, vous n'êtes pas nombreux.
Ben oui, mais au moins, je comprends pas les Français. Une sorte de sinistrose, et puis ouais. On bout de son plaisir, et là, ça me met en joie.
Ben
d'entendre
oui.
Cette musique, d'écouter ces paroles livrées de Nino, c'est formidable. On a chance d'avoir ce répertoire, il faut le défendre. C'est oui. Pas nous qui défendons, qui
va
le défendre.
Vous disiez Marseille a la réputation d'être provinciale. Moi, je dirais c'est Paris qui est devenu provincial. C'est vous qui êtes la capitale de la musique et de l'esprit français.
Ouh, alors, j'ai envie de venir.
En tout cas, voilà. On va se quitter dans un instant. Je voudrais que vous nous disiez aussi un petit peu deux mots de la prochaine saison de l'opéra. On vient d'évoquer celle de l'Odéon, mais du côté du lyrique lourd.
On n'a pas eu la présentation de saison, mais je vais quand même vous dire le titre d'ouverture de séance, ce sera Hamlet d'Ambroise Thomas.
Ah bah voilà, là encore, voilà. Décidément, vous poussez
et
plus loin.
On terminera la saison avec Don Carlo, dans la version italienne en quatre actes.
Voilà, donc ça c'est la prochaine saison de l'Opéra de Marseille. Mm-hmm. Il faut dire aussi que l'orchestre dont vous avez de fait aussi la responsabilité
comme directeur
de l'Opéra mm-hmm. a aussi sa propre saison sous la direction de Laurence Foster. Et là encore, j'ai envie de dire, la découverte et la redécouverte sont aussi à l'honneur dans cette saison symphonique.
Hein. Oui, alors c'est notre mission aussi de faire découvrir de nouveaux compositeurs. L'année prochaine, avec Larry, on va faire venir des compositeurs qui dirigeront leurs propres œuvres. Il y aura aussi des commandes pour notre orchestre. Alors c'est plus facile de passer des commandes pour un orchestre que de passer des commandes d'un compositeur pour un opéra. Parce que c'est une fois de plus des moyens financiers énormes.
Bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, de faire de la création.
Il faut, c'est la vie d'un orchestre, c'est la vie d'une cité, c'est la vie d'un théâtre. Il faut faire de la création.
Nerf de la guerre, malgré tout, on sait bien aujourd'hui, partout en France, dans les régions, dans les départements, dans les villes, ça n'est pas facile pour la culture. Alors, vous tenez relativement le cap avec des moyens suffisants à l'Odéon ?
Oui, on essaie avec un budget de plus en plus contraint, parce que c'est un secret pour personne que l'État se désengage au niveau des collectivités. Et la particularité d'Opéra de Marseille, donc de l'Odéon, c'est d'être financé à 98% par la ville de Marseille.
Oui, donc tout dépend aussi de ce que l'État reverse à la ville. Bon, en tout cas, longue vie et longue belle programmation à Marseille. Merci d'avoir été avec nous, Maurice Xibéras. On va terminer avec une autre grande artiste et un autre souvenir d'enfance, je crois, Pauline Carton.
Ah oui, alors j'ai eu la chance. Enfin, c'est un vague souvenir parce que ma grand-mère m'avait amené voir Ciboulette à l'Opéra de Marseille avec la Pauline Carton de Madame Pingret. Et elle avait traîné à la sortie des artistes en me disant viens voir, tu vas voir quelqu'un. J'ai ce souvenir de voir une dame sortir un pas cariâtre, pas très joli, et avec une sorte de manteau qui ressemblait à un pot de zébu ou de zèbre ou je sais pas quoi. Voilà, c'est ce souvenir.
Voilà, que j'ai un personnage merveilleux du théâtre et du cinéma français ici en duo avec Koval. Merci Maurice Xibéras.
Merci à vous.
Ah, cela se peut-il, joli petit bourgeon d'avril?
Non, je ne l'ai jamais vu ni connu. Mais mon cœur ingénu veut rattraper, vois-tu, tout le temps perdu.
Ah, rien ne vaut pour s'aimer les grands palétuviers, chère petite chose.
Ah, si les palétuviers te font entretiner, je veux bien essayer.
Ah, bien, soufflez pas.
Je viens de ce pas et je vais pas à pas.
Ah, suis-moi, veux-tu? Viens en sourcier, allons gazouiller sous les palétuviers.
Ah oui, sous les palétuviers.
Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laits, tu aimons-nous sous les vies. Ah, ton cœur me semble encore hésiter, cher trésor. Mais je veux tout oser pour un petit tout petit baiser.
Un vertige m'éblouit, un baiser c'est exquis. Mais dès qu'il l'aura pris, je veux être pour lui l'objet du mépris.
Non, le mépris, je t'en prie, ce n'est pas dans mes prix, car je suis pris mignonne.
Mon cœur est tout aux abois, je te donne au mouvement, mon corps au fond des bois.
Ah, viens sous les pas.
Je viens de ce pas et je vais pas à pas.
Oh, ah, suis-moi, veux-tu? Viens sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers.
Ah oui, sous les palétuviers.
Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laits, tu aimons-nous sous les biais. Si je comprends bien, tu me veux mon chien sous les grands palais. Tu viens. Palétuviers roses, aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laits, tu aimons-nous sous les biais. Si je comprends bien, tu me veux mon chien sous les grands palais.
Pauline Carton et Koval dans l'opérette Toi, c'est moi. C'était un choix de mon invité aujourd'hui, Maurice Xibéras, directeur de l'Opéra de Marseille et du théâtre Odéon, spécialement pour les amateurs d'opérette, ce théâtre Odéon, où vous pourrez voir très prochainement, les 2 et 3 avril, La Péricole d'Offenbach, les 23 et 24 avril, Trois valses d'Oscar Strauss, et encore les 21 et 22 mai, Les Mousquetaires au couvent. N'en jetez plus, tout cela, c'est donc à Marseille, au théâtre Odéon. Et oui, jeune pianiste, n'oubliez pas de faire vos exercices pendant ce week-end de Pâques, comme ici Jean-Frédéric Neuburger dans cette pièce de Czerny intitulée « Accords brisés » avec délicatesse et netteté.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et aujourd'hui, avant de retrouver mon chroniqueur de la semaine, Patrick Campistron, je voudrais rendre hommage à Louise Étienne. Louise Étienne qui nous a quittés mardi dernier à l'âge de 91 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappellerai simplement que Louise Étienne, c'était une des deux sœurs Étienne qui ont enchanté la France de l'après-guerre avec de très jolies chansons. Sa sœur Odette nous avait déjà quittés en 2013. Voilà, avec la disparition de Louise, c'est une page qui se tourne, une page que je voudrais essayer de faire revivre quelques minutes ce matin avec par exemple cette jolie chanson de Paul Durand qui fut l'un de leurs grands succès, Cheveux au vent.
Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas au tournant, mais pour le moment, je vais de l'avant, cheveux au vent, tout en chantant. Je sais très bien que dans la vie, évidemment, nous avons tous de bons et de mauvais moments. Je prends les bons et j'en profite éperdument. Mais quand arrivent les mauvais, je m'en vais. Cheveux au vent, main dans les poches en me balançant. Toujours de l'avant, tout en fredonnant ce petit air si entraînant. Popam, 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 popam. Être tout joyeux quand le ciel est tout bleu, c'est à la portée de tout le monde. La difficulté, c'est de le rester, et même quand sur soi l'orage gronde, les cheveux au vent, main dans les poches et le cœur content, je vais de l'avant, tout en redonnant ce petit air si entraînant. Je ris de tout, c'est peut-être un peu fou, mais tant pis. Adieu les soucis, pour moi tout va bien dès que je chante ce refrain. Si vous avez, messieurs, de gros soucis d'argent, si vous avez, mesdames, des petits chagrins d'amour, au lieu de vous faire bêtement les cheveux blancs, ou de soupirer nuit et jour le cœur lourd, cheveux au vent, main dans les poches et toujours content, allez de l'avant, tout en redonnant ce petit air si entraînant. Voilà la clé du bonheur ici bas.
Les Sœurs Étienne en 1948. J'avais eu d'ailleurs le plaisir de recevoir 60 ans plus tard, en 2008, ici même, Louise Étienne, l'aînée. Il faut dire que Louise aimait bien le micro, la scène, la vie publique. Elle adorait chanter comme sa sœur, mais sa sœur était sans doute plus effacée, Odette Étienne, qui nous a quittés, elle, en 2013. Et je garde un très bon souvenir de cette rencontre au cours de laquelle nous avions évoqué la carrière, bien sûr, des Sœurs Étienne, avec leur très grand succès, notamment leur version de C'est si bon, mais aussi Amado Mio, mais aussi les chansons du Tour de France qu'elles avaient souvent accompagnées. Et puis nous avions également évoqué leur jeunesse dans une famille d'ailleurs très très ouverte à la musique, où avec leurs autres sœurs, elles avaient déjà fondé des petits groupes vocaux. Et je vous propose de retrouver tout de suite quelques minutes Louise Étienne, qui nous raconte les débuts de la vraie carrière à l'occasion de Radio Crochet, donc en compagnie de sa sœur Odette Étienne. C'était juste à la fin de la guerre.
On est allé se présenter. Et on nous dit, mais c'est très bien. C'est,
au voilà. Grand Palais. Hein.
Au Grand Palais, exactement.
C'était un concours radiophonique.
C'était une émission en public, s'il vous plaît. Il fallait enjamber les câbles. On avait, oh là là, on était... Alors, on avait à notre répertoire Zumba. Si tu me dis oui, je crois, ou qu'est-ce qu'on avait chanté. Enfin, on a eu un succès du tonnerre. Et on a eu... Vraiment, puis alors à ce moment-là, moi, j'étais plus déjà une grande... Hein, je vous dis, ma sœur plutôt fluette. Et le lundi, c'était un samedi après-midi, cette émission, le lundi matin, coup de téléphone, ici l'orchestre de Raymond Legrand, voilà. Le secrétaire, est-ce que les sœurs Étienne sont libres pour passer dans l'émission? On pensait si on était libre, on n'en revenait pas. Une demi-heure après, recoup de téléphone, l'orchestre de Richard Blaraud.
Voilà. Qu'on connaît ici d'ailleurs comme plutôt comme chef lyrique.
Il était à l'opéra après, voilà. Mais oui.
Mais qui a été chef de variété.
De variété, oui. Surtout les violons à l'époque. Alors on n'en revenait pas. Et puis tout de suite, on a eu une chance folle de rencontrer des gens, des musiciens comme Raymond Legrand, comme Richard Blaraud, enfin des chefs d'orchestre.
Et comme Jerry Mango.
Jerry Mango dans l'orchestre qui faisait le batteur, mais qui était arrangeur aussi.
Et qui vous a donc poussé vers ce répertoire américain.
Ah, il nous a dit, les Américains vont arriver, vous voyez, c'était 44, il faut apprendre une chanson en anglais, les filles. Alors bon, on l'a écouté, si bien que quand les Américains sont arrivés et qu'on a chanté notre chanson, alors là... On a été vraiment applaudis à tout rompre.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez étudié, préparé tout ce répertoire américain juste avant la Libération.
Oui.
Et puis quand la Libération est arrivée, ça a fait de vous des vedettes
immédiatement. Alors on était engagés par le Special Service Et on a commencé à faire des galas. Vous savez, c'était pas toujours gay parce qu'on allait chanter dans les hôpitaux. Alors, ouais. Il y en avait qui étaient amputés, tout ça, qui gémissaient. Mais enfin, et alors là, on a été remarqué par le chef à un moment, Glenn Miller devait venir chanter, jouer en France.
Ouais.
Mais le pauvre, il n'est jamais arrivé. Nous, on l'a jamais connu, lui. Mais on était engagé avec l'orchestre.
Vous avez tourné pendant 6 mois avec l'orchestre de Glenn Miller.
3 mois avec l'orchestre de Glenn Miller sur la Côte d'Azur.
Sentimental Journée, un enregistrement des Sœurs Étienne en anglais, puisqu'elles étaient un peu les cousines françaises des Andrew Sisters. Voilà, je voulais rendre un petit hommage à Louise Étienne qui nous a quittés mardi dernier à l'âge de 91 ans. Mais nous allons quand même finir cette matinée joyeusement avec Patrick Campistron. Bonjour Patrick.
Bonjour mon cher Benoît.
Vous aimiez bien et vous connaissiez bien aussi d'ailleurs les Sœurs Étienne. Hein.
J'adorais les Sœurs Étienne et je suis sûr que Louise et Odette sont en train de chanter pour les anges.
Voilà, bah on est avec elles et on est aussi aujourd'hui avec Mozart parce que vous nous proposez Mozart, alors revisité très librement et plus ou moins bien, on va juger en tout cas par les chanteurs de variété.
Et oui mon cher Benoît, le divin Wolfgang était également détourné par quelques facétieux chanteurs. Mais parfois, ces interprètes étaient plutôt candides, comme notre première invitée, l'inoubliable Rina Ketty, qui donne aux Noces de Figaro un petit air de tango. Voici donc l'air de Chérubin avec accompagnement d'accordéon. Mon cœur soupire, maestro s'il vous plaît.
Vous êtes bien sur France Musique puisque ce sont les Noces de Figaro de Mozart avec accordéon et la voix délicieuse de Rina Ketty, un enregistrement de 1939, Patrick Campistron.
Et nous allons continuer avec la petite musique de nuit qui n'a pas échappé non plus à ces facéties, et c'est ici un groupe héritier de nos merveilleux quatre barbus et autres frères Jacques, oui. Le Quintet de l'Art.
Je ne connais pas celui-là, Quintet de l'Art.
Le Quintet de l'Art, malheureusement, il n'a fait qu'un seul disque, à ma connaissance, mais qui est extraordinaire, et je voudrais vous faire entendre les aventures de la petite chemise de nuit.
Le jour où j'ai rencontré vos hommes, j'aurais dû rester dans mon plumard.
Dès le jour de notre noce, il cherche du boulot dans les annonces du Figaro.
Donc j'en vends du temps, il laisse et je perds mon temps en attendant.
Maman, crois-moi, cette vie est si rasoire.
Crois-moi, si rasoire.
J'ai peur,
il fait tout la voix, je ne peux plus le croire.
Non, il n'y a plus d'espoir. C'est désespérant.
Il n'y a plus d'espoir.
Mon Amadeus
passe ses nuits chez
son fragile.
Il voit et je m'écoute,
ne va donc pas tendre.
Mon ami Paul Wolfgang,
il est toujours pompette.
Il rentre, il boit, il pète.
Il rentre et sent la bête.
Et plus rien ne l'arrête.
Wolfgang m'a déçu, je ne l'aime plus.
Je ne l'aime plus tellement.
Wolfgang a tellement vu que je ne l'aime plus.
Il est toujours pompette.
Il rentre, il boit, il pète.
Il rentre, il sent la bête.
Et plus rien ne l'arrête.
Je ne l'aime plus tellement, vu que je ne l'aime plus.
J'avais épousé un petit génie
et je n'ai maintenant plus de mari.
Mandat ses filles.
Il peut aller se faire cuire.
Il peut aller se faire cuire.
Il peut aller se faire cuire un œuf. Et nous voilà bien effectivement dans la tradition des quatre barbus qui aimaient bien détourner la musique classique. On connaît leur boléro de Ravel, leur barbe rossinienne. Mais là, c'est un groupe beaucoup plus récent, hein, Patrick Campistron, le Quintet de l'Art.
Le Quintet de l'Art, oui. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul disque qui est sorti en 1996.
16, voilà, avec donc cette petite chemise de nuit, puisque vous nous parlez aujourd'hui des détournements de Mozart par les chanteurs de variété.
Absolument. Et je vous propose d'entendre maintenant une chanson intitulée « Les quatre saisons ». Mais surtout, n'allez pas croire que je confonde Mozart et Vivaldi, il s'agit bien d'une œuvre de Wolfgang, et non des moindres, la symphonie numéro 40, sur laquelle, s'il vous plaît, Maxime Le Forestier a composé un texte sur l'amour à chaque saison de la vie pour la voix chaude et tonique de Colette de Réal.
C'est pendant tous les ans de l'outrage que l'on peut si près de notre hiver, quand les cœurs n'ont plus peur de l'orage, raconter le passé cœur ouvert. Je connaîtrai tes maîtresses et je m'en moquerai bien si près de la vieillesse. Quelques-uns sur mes mains, sur ma bouche, ont posé des baisers autrefois. Ce n'est rien car c'est bien dans ta couche, dans ton lit que ma vie finira. N'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur car les fleurs sont pétales, on ne vient plus les cueillir. Et la nuit quand se lève une étoile, beaucoup d'autres vont venir.
Ah oui, oui, ça c'est du sérieux.
Ça c'est très sérieux.
Colette Déréal dans cette chanson de Maxime Le Forestier en 1971 sur la musique donc de la 40e de Mozart, Patrick.
Et oui, et Mozart avait une légende. Cette légende veut qu'il ait été un sacré coquin. Et peut-être cette version de son incontournable « Ah, vous dirais-je maman » en forme de leçon de choses l'aurait amusé, surtout telle que nous la conte la grande Colette Renard. Veuillez éloigner les enfants du poste.
Ah, vous dirais-je, maman, à quoi nous passons le temps avec mon cousin Eugène. Sachez que ce phénomène nous a inventé un jeu auquel nous jouons tous les deux. Il m'emmène dans le bois et me dit « Déshabille-toi ». Quand je suis nue tout entière, il me fait coucher par terre. Et de peur que je n'aie froid, il vient se coucher sur moi. Puis il me dit d'un ton doux, écarte bien tes genoux, et la chose va vous faire rire, il embrasse ma tirelire. Oh, vous conviendrez, maman, qu'il a des idées vraiment. Puis il sort, je ne sais d'où, un petit animal très doux, une espèce de rat sans pattes qu'il me donne et que je flatte. Oh, le joli petit rat, d'ailleurs il vous le montrera. Et c'est juste à ce moment que le jeu commence vraiment. Eugène prend sa petite bête et la fourre dans une cachette qu'il a trouvée le farceur. Où vous situez mon honneur? Mais ce petit rat curieux très souvent devient furieux. Voilà qu'il sort et qu'il rentre et qu'il me court dans le ventre. Mon cousin a bien du mal à calmer son animal. Complètement essoufflé, il essaie de le rattraper. Moi, je ris à perdre haleine devant les efforts de gêne. Si vous étiez là, maman, vous ririez pareillement. Au bout de quelques instants, le petit rat sort en pleurant. Alors, Eugène qui tremblote le remet dans sa redingote. Et puis tous deux nous rentrons sagement à la maison. Mon cousin est merveilleux, il connaît des tas de jeux. Demain soir sur la carpette, il doit m'apprendre la levrette. Si vraiment c'est amusant, je vous l'apprendrai en rentrant. Voici ma chère maman, comment je passe mon temps. Vous voyez, je suis très sage, je fuis tous les bavardages et j'écoute vos leçons. Je ne parle pas aux garçons.
Voilà, vous êtes bien sur France Musique. Ce sont les choix de Patrick Campistron, Colette Renard en 1963.
Absolument. Et je voudrais terminer par un feu d'artifice en moins de 3 minutes. Vous aurez droit à la petite musique de nuit, la 40e, la marche turque. Mais attention, tout cela yodelé par la reine australienne du genre, Mary Schneider. Accrochez-vous!
Lay away, oh, do 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 Galala, 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 doodle, 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 galala, 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 doodle, 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 galala, 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 doodle, 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 galala, 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 doodle, doodle, doodle.
Even though I may rue it, I have put the yodel to it, so without hesitation I will throw in one or two.
Merci Patrick Campistron, j'adore cette Madame Schneider australienne de son... de sa nationalité.
Je vois que vous avez un goût parfait.
Merci pour ces Mozarteries de samedi matin. À bientôt, Patrick.
À très bientôt.
Voilà, ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteur, très préparée par Pauline Boisaubert, aujourd'hui à la technique Adelino Mello, avec Antoine Giraud et Julie Guérou, réalisation Christine Amado. On se retrouve samedi prochain. J'aurai le plaisir d'accueillir ici même Isabelle Aubray. Bon week-end à tous.